Oui, frères et sœurs, nous sommes ce matin encore au bénéfice de cette douce voix qui nous dit « Je veux vous aimer tous ». Une sorte de métaphore pour dire que nous sommes toutes et tous au bénéfice de la grâce. Et c'est cela qui fonde notre espérance. Eh bien, aujourd'hui encore, nous entendons célébrer notre espérance fondée en Dieu de qui nous recevons les paroles, qui nous attire vers une vie réjouissante, fraternelle, chaleureuse. Que chacun de vous reçoive ce matin encore la grâce et la paix en abondance, dans son cœur, dans sa vie. Je vous invite à chanter Dieu avec la première strophe du psaume 81. Levons-nous pour chanter au psaume 81, la première strophe de ce psaume qui accompagnera notre culte. Éternel, ton nom passe dans notre histoire comme passe la source dans le désert. Enfouie, mystérieuse. Que savons-nous de toi sinon cette faim que nous ressentons et qui nous tient vivants? Depuis l'aube des temps, les hommes confessent que tu es source d'espérance. Et ton nom résonne de mille noms au creux de chacune de notre vie. Parfois, un nom de route. Cette route que nous empruntons pour aller vers celui que ton amour nous désigne. Parfois un nom de paix, notamment dans la violence qui barre si souvent les relations interpersonnelles. Nom de tendresse, en particulier lorsque la morsure de la solitude se fait particulièrement vive. Nom de confiance, lors de toutes ces nuits où l'angoisse se fait débordante, ruisselante sur notre couche. Il y a aussi le nom de vérité, quand ce que nous vivons ne ressemble pas à grand-chose. Oui, depuis l'aube des temps, une multitude de noms te caractérise. Et ton nom, chaque jour, invente un chemin pour nous, un chemin de justice. Alors viens ce matin souffler le nom qui sera décisif pour notre présent, pour notre avenir. Amen. Et nous pouvons, frères et sœurs, chanter la fidélité de Dieu à travers les âges par le chant du psaume 36. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 de ce psaume 36.
Thank you.
prenons place. Nous reprendrons le psaume 81 pour ponctuer les différents moments de ce culte. Recueillons-nous pour l'instant dans la prière. Notre Père, nous invoquons ta présence, mais il est vrai qu'en nous demeurent de nombreuses résistances. Il y a les débris des vieilles luttes que nous pensions disparues, au moins effacées, mais qui ressurgissent de temps en temps. Il y a aussi les traces d'anciennes peurs, de ces angoisses que nous pensions avoir jugulées définitivement. Il y a l'inquiétude de l'avenir, parce qu'au fond, nous ne savons pas très bien qui nous sommes, ni où nous en sommes de notre vie. Il y a nos incompréhensions. Nous avons la Bible à notre disposition. Nous ne savons pas toujours très bien qu'en faire, ni comprendre ce qu'elle nous révèle. Et puis il y a nous, nous avec notre orgueil, cette fierté mal placée, qui nous donne le sentiment que nous devrions réussir notre vie par nous-mêmes à la seule force de notre poignet, sans aide, sans altérité. Alors, Dieu notre Père, aide-nous à nous débarrasser de ce qui encombre notre vie, de ce qui entrave notre route vers la terre promise. Aide-nous à faire un peu de place pour toi, pour ta grâce. Vois aussi les anciennes rancunes, les ressentiments d'autrefois, les amertumes enfouies, déjà pardonnées, et qui pourtant continuent à peser. Réactualise cette promesse lancée par les prophètes, celle de nous donner un cœur nouveau, un cœur de chair, à la place de ce cœur de pierre qui nous empêche de respirer un air de fraternité. Amen. Frères et sœurs, chantons la troisième strophe du psaume 81. Il peut y avoir dans notre culte dominical une sorte de phénomène répétitif qui nous donne le sentiment que finalement nous tournons un peu en rond, une sorte de sens giratoire de la vie, toujours à nous rappeler notre situation de pécheur. Mais c'est parce que chaque jour nous sommes en fait affrontés à de nouveaux défis, de nouvelles situations. Et force est de constater que face à ce qui nous arrive, il faut prendre le temps de la réflexion et redécouvrir cette puissance de vie que Dieu injecte de façon tenace au cœur de notre histoire. C'est cela certainement l'intérêt de ces textes bibliques qui nous offrent une mémoire qui dépasse largement la mémoire que nous avons enregistrée physiquement, qui dépasse largement la mémoire de nos aïeux, celle dont nous avons pu bénéficier dans les récits familiaux. C'est une mémoire profonde qui nous rappelle que si aujourd'hui nous nous croyons faibles, nous pouvons nous rappeler que Dieu a toujours donné la force du lendemain. Ces textes qui nous rappellent que si aujourd'hui nous nous sentons angoissés, Dieu a toujours donné la paix du lendemain. Ces textes qui nous rappellent que si aujourd'hui nous avons le sentiment d'être au cœur de l'épreuve, Dieu a toujours gardé l'humanité à travers l'épreuve. Et si la route qui mène vers cette terre promise où coule le lait et le miel est quelque peu cachée, eh bien, Dieu a toujours disposé une colonne de fumée, une colonne de feu. Il a toujours tracé des routes pour notre lendemain. Alors chantons à Dieu notre reconnaissance par la quatrième strophe du psaume 81. Levons-nous pour chanter cette quatrième strophe. Ayez un même amour, un même cœur, lit-on dans l'Épître aux Philippiens. Recherchez l'unité. Ne faites rien par rivalité, rien par vaine gloire, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. À travers ces mots de l'Épître aux Philippiens, nous entendons un amour inconditionnel qui fraye son chemin dans l'histoire des hommes et qui les invite eux-mêmes à vivre l'amour. Et cette thématique de l'amour peut irriguer notre profession de foi. Et c'est ainsi que je vous invite à vous associer à ces mots pour exprimer notre foi, en disant que Dieu est amour. Par amour, Dieu notre Père crée le monde. Son Fils, Jésus-Christ, est mort et ressuscité pour que l'amour naisse au cœur de chaque être humain. Son Esprit nous rend libres et responsables pour vivre de cet amour. Nous croyons que Dieu nous appelle aujourd'hui, comme chaque jour, à répondre à son amour. Dans l'Église, comme artisan de vérité et de pardon, parmi tous nos contemporains, comme artisan de justice et de paix. Dans son royaume qui vient, où l'amour éclaire toute chose, Dieu est amour. C'est ce que nous croyons. Amen. Au cantique 405, chantons les strophes 1, 2, 3 et 4. Cantique 405. Prenez place et nous reprendrons pour la dernière fois le psaume 81. Dieu notre Père, tu viens à nous dans la nouveauté de l'existence et nous, nous allons le plus souvent vers toi avec nos vieilles habitudes, rassurantes, réconfortantes. Tu viens à nous dans la vérité et nous, nous allons vers toi avec nos illusions. Alors donne-nous, Seigneur, de croiser aujourd'hui ta route, la joie de découvrir ton chemin, parce qu'il nous conduit vers toi pour vivre l'amour qui défie les siècles et qui nous permet de respirer un peu mieux. Fais-nous maintenant cette grâce. Amen. C'est dans l'Épître aux Galates que j'ai choisi quelques versets pour nous ce matin, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2, je vais vous lire les versets 1 à 10. Un peu plus tôt, au chapitre 1, l'apôtre Paul a raconté son expérience de conversion. Après avoir largement persécuté les disciples du Christ, il a, sur le chemin de Damas, eu cette vision qui le conduit à passer du côté des persécutés. Et au chapitre 2, il écrit ceci, « 14 ans plus tard, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, et je pris aussi Tite avec moi. J'y montais par suite d'une révélation. » J'exposais à ceux de Jérusalem l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en privé aux plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Cependant, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Christ Jésus avec l'intention de nous asservir, nous ne leur avons pas cédé un seul instant par soumission, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Quant à ceux qui paraissaient les plus considérés, ce qu'ils avaient été autrefois m'importe peu. Dieu ne fait pas de considération de personne. Les plus considérés ne m'ont rien imposé. Au contraire, lorsqu'ils virent que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui, agissant en Pierre, en a fait l'apôtre des circoncis, a également agi en moi, en vue des païens. Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Képhas et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi en signe de communion. Ainsi, nous irions vers les païens et eux vers les circoncis. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire. Frères et sœurs, chantons donc la 7e strophe du psaume 81. Chers frères et sœurs, à supposer que cela vous ait échappé par un petit moment d'inadvertance, ayons bien conscience que l'Évangile n'est pas réservé aux chrétiens. L'Évangile n'est pas seulement pour les chrétiens. Évidemment, cela peut sembler une évidence, et pourtant, dès les premiers temps qui suivirent Pâques, lorsque les apôtres entreprirent de partager la bonne nouvelle proclamée par Jésus, quelque temps après Pâques en vérité, il y eut de fortes tensions à ce sujet. Il y eut des tensions entre ceux qui voulaient que l'Évangile soit prêché aux gens du fichier paroissial et à eux seuls, et puis il y avait ceux qui voulaient l'annoncer aussi aux autres, aux étrangers, à ceux qui ne connaissaient rien à la religion de Jésus et peut-être même qui ne croyaient pas vraiment au ciel, pour reprendre une expression du poète. L'apôtre Paul fait partie de ceux qui se sont investis auprès des païens, auprès des gens sans foi, sans religion, sans temple ni synagogue, du moins du point de vue de ceux qui étaient au sein d'une communauté religieuse. Et cela lui a été reproché. Jusqu'à ce qu'ait lieu cette réunion, ce synode à Jérusalem, probablement vers l'an 51 de notre ère. Et c'est de cela dont il est question dans ce passage biblique. Une discussion assez musclée entre cadres d'église pour savoir s'il fallait s'intéresser uniquement aux personnes inscrites dans le fichier paroissial et peut-être même simplement à ceux qui versent une offrande nominative, ou s'il était possible de s'adresser aussi à ceux qui n'en faisaient pas partie. Avec peut-être même, dans l'esprit de l'apôtre Paul, une option préférentielle pour ceux qui, justement, ne faisaient pas partie du fichier paroissial. Au final, tout le monde tomba d'accord sur le fait que l'Évangile était pour tous, pour ceux du dedans et pour ceux du dehors, pour les déjà juifs et pour les pas encore chrétiens finalement. À l'apôtre Pierre, le service des juifs, à l'apôtre Paul, le service des nations. Les circoncis pour Pierre et les païens pour Paul. Chacun chez soi, et les brebis seraient ainsi bien gardées. Mais tout cela fait-il un peuple de Dieu ? Ou est-ce une manière de faire du séparatisme ecclésial, ferment du séparatisme religieux, qui évidemment fragilise toute société humaine au lieu de renforcer cette société dans ses fondements et dans son avenir ? Je propose d'observer cela à partir de deux aspects qui jaillissent parmi d'autres dans ce texte biblique, la considération pour les personnes et la liberté offerte par le Christ. Le premier axe d'observation, c'est l'individu. Car derrière la religion, avec ses discours, avec son catéchisme, avec sa doctrine, derrière les institutions religieuses, derrière les sacrements, derrière les offices, derrière les prières, derrière les génuflexions parfois et tous les gestes rituels en vérité, il y a Dieu et il y a des personnes. Nous ne devrions jamais l'oublier. On ne devrait pas oublier, nous qui avons appris que le Shabbat, la loi, est faite pour l'homme et non l'inverse, que même la religion est faite pour l'homme, pour Dieu, et pas l'inverse. Dieu, l'homme, ne devrait jamais s'effacer derrière la religion, aussi stimulante soit-elle. Toujours est-il que les colonnes de l'église mère qui est à Jérusalem, les personnes les plus importantes, les plus structurantes, les chefs, considérèrent qu'il fallait respecter certaines choses tout de même, pour être fidèle à la révélation faite par le Christ Jésus. Par exemple, Jésus était juif. Il avait été donc circoncis dans ses premiers jours. Et comme il n'avait pas dit qu'il fallait arrêter de circoncire les garçons, eh bien, il fallait donc continuer à le faire. Paul, lui, considère qu'il faut respecter les personnes avant toute chose, pour être fidèle à la révélation faite par le Christ Jésus. Ce qui anime Paul, ce n'est pas la fidélité par rapport aux formes religieuses, ce n'est pas la loi rituelle qui le mobilise, ce sont les gens, ce sont les individus, ces êtres de chair et de sang qu'il a tellement malmenés dans sa jeunesse. Paul a fait tuer des apôtres de Jésus, quand il était encore ce pharisien impulsif qui voulait défendre l'honneur du judaïsme. Sacrifier peut-être les brebis perdues d'Israël pour sauver l'honneur de sa foi israélite. Et puis il a donc fait cette rencontre mystique sur le chemin de Damas que j'ai à peine évoquée, le Christ l'interpellant, lui demandant, on l'entend dans le livre des Actes des Apôtres, « Pourquoi me persécutes-tu ?» Et voyez, cette expérience, à la fois terrible et profondément humaine, a certainement travaillé en profondeur l'humanité de Paul. Paul sait plus que quiconque quel est le prix de la vie, lui qui a fait couler le sang. Il sait quelle est la valeur d'une personne, d'un individu. Il en a suffisamment fait tuer pour ne plus sacrifier qui que ce soit sur l'autel de l'intolérance religieuse, du fanatisme, de la radicalisation. Je ne dis pas que Jacques, le frère de Jésus, qui dirige la communauté de Jérusalem et qui est donc premier parmi tous les apôtres, est un fanatique. Il me semble toutefois qu'il est, dans une certaine mesure, assez radicalisé par rapport au respect scrupuleux des rituels et des normes. Vous savez, ce sentiment étrange, lorsqu'on prend des responsabilités et qu'on a à cœur de tenir ces responsabilités, notamment auprès d'une communauté, ce sentiment étrange que si nous ne respectons pas les formes telles qu'elles ont été respectées jusque-là, les gens vont partir et que la communauté va s'effondrer. Comme si les formes étaient les seules à tenir une communauté. Je vous dis ça tranquillement en étant encore aujourd'hui en robe pastorale. Mais l'important n'est pas là, voyez-vous. L'apôtre Paul, lui, vise le bien-être des personnes et l'épanouissement de leur spiritualité, de leur relation à Dieu, de leur connaissance de ce que le Christ a incarné pour que chacun puisse personnellement s'engager dans la voie ouverte par le Christ Jésus et fasse de l'amour sa véritable loi. Et on pourrait dire qu'avec l'apôtre Paul, nous passons de la loi rituelle à la loi éthique, qui devient un cœur et pas une forme. Au fond, l'amour va développer sa propre forme. Cette considération des personnes, plutôt que des dogmes et de la discipline ecclésiastique, n'est pas seulement l'affaire de l'apôtre Paul. C'est aussi la perspective de Dieu dont l'apôtre Paul rapporte qu'il ne fait pas de considération de personne. Évidemment, dans notre langue française, il y a une sorte d'ambiguïté dans cette traduction de Louis II. Il nous faut peut-être revenir un peu sur le texte grec pour lever cette ambiguïté. Une manière plus heureuse de traduire cette phrase serait de dire que Dieu ne fait point acception des personnes. C'est une formule assez semblable à celle que l'on trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 17. Peut-être qu'au plus près du texte grec, l'apôtre Paul écrit que Dieu ne prend pas le visage des hommes, le prosopone. Autrement dit, il ne s'en tient pas aux apparences. Il ne s'en tient pas au masque social que nous avons, le masque de l'acteur, bien utile pour entrer en relation avec autrui, mais qui finalement dissimule le cœur même de notre personnalité. Dieu, lui, sonde les cœurs et les reins. Ce qui est bien différent des fanatiques religieux qui, pour leur part, jugent les gens sur les apparences religieuses, sur le vocabulaire employé dans les phrases, peu importe que ces phrases n'aient aucun lien avec la réalité, peu importe que le vocabulaire ne soit pas pensé et que finalement ces mots religieux, ces mots théologiques ne soient que des cache-misères. Peu importe pourvu que tout cela ait bien l'apparence de la piété. Bref, Paul écrit que les personnes de l'Église qui sont les plus considérées parmi les hommes, celles qui jouissent de la plus grande notoriété, celles dont on parle dans les repas paroissiaux, et qui n'a pas beaucoup de prix aux yeux de Dieu, puisque Dieu ne prend pas les apparences auxquelles les hommes s'attachent pour argent comptant. Eh bien, les personnes les plus considérées, donc, n'ont rien imposé à Paul, rapporte l'apôtre Paul, si bien qu'il a pu continuer à s'occuper des incirconcis, car les incirconcis, eux aussi, sont au bénéfice de la grâce de Dieu. Non pas par une sorte de lubie personnelle de l'apôtre Paul, mais parce que c'est ce qu'il avait compris de l'existence de Jésus. Et on peut évidemment, d'une manière un peu sommitale, penser à cet épisode où Jésus rencontre cette femme syrophénicienne qui n'a vraiment rien à voir avec la foi israélite, qui lui implore un geste de bienveillance pour son enfant qui ne se porte pas bien. Et dans un premier mouvement un peu spontané, un peu instinctif, Jésus lui fait comprendre qu'il n'est pas venu pour les chiens ou les chiennes dont elle fait partie, mais pour les brebis perdues d'Israël. Mais son insistance, sa foi, qui dépasse tous les clivages religieux, fait dire à Jésus que jamais il n'a vu une foi pareille dans tout Israël. Et il reprend sa lecture personnelle de sa vocation intime pour comprendre la dimension universelle qui lui incombe. Par-delà toutes les frontières religieuses et même sociales, comme nous le verrons par les autres épisodes où il n'hésite pas à aller à la rencontre des gens qui sont mis à l'index. Ainsi, précisément parce que Dieu ne fait pas de séparatisme et inspire des personnages qui vont transcender toutes les tentations de séparatisme, précisément, Dieu désigne l'amour universel. L'attitude bienveillante de Paul envers les incirconcis s'inscrit donc dans cette dynamique divine qui ne connaît aucune frontière, aucune limite, aucune entrave. Ainsi, la mission auprès des incirconcis, auprès des goïms, les gentils, les nations, fut comprise comme une grâce proprement divine. Et Paul a été compris comme un agent de la grâce divine qui transcende les particularismes, qui transcende les communautarismes et qui, ce faisant, met le communautarisme en échec. En ne se contentant pas de s'occuper des gens qui étaient sur le fichier paroissial, l'apôtre Paul a fait valoir une part importante de la grâce qui ne fait point exception des réputations, des étiquettes, des affiliations et des autodésignations. La grâce transcende tout ce qui fait obstacle à l'humanité des personnes. C'est ce que l'apôtre Paul a montré en transgressant les usages. Paul, donc, bouge les lignes. Il transgresse les usages de l'époque. Et c'est le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est cette liberté dont il fait preuve. Depuis des siècles, la circoncision des garçons était le moyen d'entrer dans l'alliance avec Dieu. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 17, que cela est dans une certaine mesure institué avec le personnage Abraham, qui devient Abraham d'ailleurs. La circoncision était la condition d'entrée dans la communauté. Cela était bien stipulé dans le livre de l'Exode au moment de la sortie d'Égypte. Si quelqu'un voulait célébrer la Pâque avec vous, qu'il soit circoncis. Cette disposition est toujours d'actualité dans le judaïsme, mais elle est rendue caduque par l'apôtre Paul, qui, je le rappelle, fut pourtant un fervent pharisien par le passé. Paul estime qu'on peut entrer dans l'Alliance par la foi en Christ, indépendamment du rituel de la circoncision, ce qui, à l'époque, constitue une véritable révolution théologique. Ce n'est plus un rite qui fait entrer dans l'Alliance, c'est la foi. Ce n'est plus la circoncision qui rend les hommes fils de Dieu. C'est la foi qui nous permet d'accueillir l'Esprit divin d'adoption, qui fait de nous tous des fils et des filles bien-aimés. Nous sommes incorporés dans le peuple de Dieu, non par un rite, mais par la confiance dans l'amour inconditionnel que Dieu porte à chacun de nous et qui n'attend jamais le moindre rite pour être effectif. Cela constitue un bien commun susceptible de faire société. Et cela rejoint un peu le premier point, voyez-vous, parce que l'amour de Dieu a vraiment un caractère universel qui n'attend jamais le moindre rite pour être effectif. Toutes et tous sont au bénéfice de cela, qu'ils le sachent ou non. Alors l'apôtre Paul remet les choses dans le bon sens. La grâce de Dieu est première, la foi nous permet d'accueillir la grâce, et les rites qu'il ne va pas balayer d'un revers de main. Les rites permettent de prendre conscience et de pouvoir rendre cela visible autour de nous. Le rituel a donc un rôle secondaire dans la dynamique de la grâce, ce qu'on nous explique avec la situation de Tite, qui est grec, qui n'est pas juif, qui n'a pas été circoncis et qui ne le sera pas. Car la circoncision ne nous rend pas fils de Dieu. La circoncision confirme le fait que nous sommes fils de Dieu. Mais pour l'apôtre Paul, il y a peut-être un moyen un peu plus universel de pouvoir signifier cette alliance entre Dieu et chaque être humain. Le baptême pourra être considéré comme une nouvelle manière, plus universelle, puisque ce rituel ne sera pas réservé aux seuls garçons, mais qu'il sera valable pour tous, sans distinction. Bien avant que les femmes puissent voter, qu'elles puissent ouvrir un compte bancaire sans l'assentiment de leur conjoint, bien avant que les femmes puissent être pasteurs de notre Église. Il y a certainement d'autres choses qu'il faudra instituer dans les siècles à venir. Bon, toujours est-il que si l'apôtre Paul arrive à transgresser un usage qui était finalement un peu en deçà de la prédication de Jésus, il n'en demeure pas moins qu'il rencontre de fortes résistances, notamment auprès de faux frères, des pseudadelphoi, des pseudo-adelphoi, des pseudo-frères, qui s'opposent à la liberté que procure Dieu à l'égard des rituels et qui sortent les aérofreins quand ils voient comment l'apôtre Paul se comporte, qui disent « Oh, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait dans l'Église, ce n'est pas comme ça qu'on fait dans notre institution, car il y a des formes qui semblent inévitables ». Alors les pseudo-frères sont ceux qui pensent que la religion permet d'avoir en fait le pouvoir sur les gens. Et ce que ces faux frères voient dans l'attitude de Paul, c'est que le pouvoir de coercition qu'ils ont sur les gens est en train de leur échapper. Parce que si on ne peut plus contraindre les gens à être circoncis pour être authentiquement fils de l'Alliance, on perd le pouvoir sur ces gens-là. On n'a plus la possibilité de flécher la communauté pour leur dire « c'est le passage obligé pour être considéré comme l'un des fils de Dieu ». Ce sont ceux qui utilisent la religion pour assouvir leur soif de contrôle des consciences et qui aimeraient que tout le monde leur obéisse. fassent ce qu'ils disent de faire et pensent ce qu'ils pensent. En dehors de la religion, cela existe aussi, évidemment. Tous les groupes de pouvoir, tous les groupes de pression qui créent des fidélités particulières, des intérêts de caste, de corporation, aux dépens de l'intérêt général. Eh bien, l'intérêt de la geste de Paul à l'égard de la circoncision est de remettre l'essentiel au cœur de nos décisions. Paul remet Dieu au centre de la religion, à la place du pouvoir humain. En relativisant la circoncision et toutes les institutions, l'apôtre Paul met chacun directement face à Dieu, le fameux Coram Deo de Martin Luther. Sans les intermédiaires, qu'en plus, le plus souvent, il faut payer. L'apôtre Paul profane le sacré au sens où il rend le sacré disponible pour tout le monde, en toute liberté, sans en passer par les fourches codines de quelque institution que ce soit. Le sacré disponible pour tout le monde, juif ou non, homme ou non, considéré par les autres hommes ou non. C'est une véritable démocratisation que l'apôtre Paul entreprend. Dans la veine des prophètes qui eux-mêmes avaient entrepris de relativiser des rituels dont ils disaient que Dieu n'en a vraiment rien à faire, voire qu'il les a en horreur dans le livre du prophète Ésaïe. Des rituels qui éloignent les humains de la justice sociale, rappelait justement le prophète Ésaïe, notamment la bienveillance envers les pauvres, ce qui constitue l'espérance de Dieu qui est rappelée de manière ultime dans ce passage. La loi rituelle est relativisée au profit de la loi éthique. L'apôtre Paul réinjecte la liberté dans le champ religieux parce que chaque individu est effectivement affronté à des situations uniques en leur genre qui nécessitent d'inventer des réponses qui ne sont jamais dans le grand code de la loi. Rituel. Il faut toujours faire preuve de cette souplesse que permet l'esprit d'adoption du baptême, parce que nourri par l'amour de Dieu, et non pas nourri par l'amour des formes religieuses qui sont nécessairement figées, car inscrites dans le marbre de nos constitutions et de nos disciplines ecclésiales. Paul récuse que la religion soit une affaire de contrainte au sens d'un carcan auquel il faudrait se soumettre. Paul ne récuse pas l'obéissance, il récuse la soumission à un carcan qui serait le fruit d'un système de pouvoir qui asservit les âmes au lieu de permettre aux âmes d'être véritablement tendues vers ce qu'il y a de plus sacré dans l'existence. Paul récuse que la religion soit un système de coercition. Il rappelle que la religion est un moyen de reconnaissance d'autres voies, d'autres pratiques, d'autres discours, d'autres formes que celles que nous connaissons et que nous pratiquons, d'autres formes par lesquelles la grâce s'exprime pour tout un chacun. Chaque personne, nous fait comprendre l'apôtre Paul, chaque personne a un appétit plus ou moins grand pour la transcendance, mais il n'en demeure pas moins vrai que nous sommes toutes et tous chatouillés par la grâce, que nous croyons au ciel ou que nous n'y croyons pas encore. Et la religion est un moyen par lequel nous pouvons prendre conscience de ce que la grâce produit en nous. Et c'est en ce sens que les institutions ne sont pas à supprimer, car elle nous offre les moyens de penser ce que Dieu construit en nous. Elle est aussi le moyen par lequel nous pouvons identifier les entraves qui nous retiennent de vivre de la grâce, ce que l'Ancien Testament appelle les idoles. La vraie religion, ainsi, permet à chacun de vivre de la grâce en toute liberté, ce que je nous souhaite puissamment. Amen. Le cantique 522 nous permettra de chanter cet amour de Dieu pour son Église universelle, visible et invisible, qui dépasse largement ce que nous voyons. Levons-nous pour chanter au cantique 522 les strophes 1, 2 et 3. Prenons place pour partager quelques informations. Tout d'abord, dans les familles, nous déplorons cette semaine le décès de Mathilde Doucher, qui ne pouvait plus venir depuis qu'elle était hospitalisée il y a à peu près un an et demi. Elle venait parfois ici en fauteuil roulant et donc elle est décédée dans son sommeil cette semaine. Il y a la réjouissance de la naissance de Nathaël dans le foyer d'Olivier Fuertes, que certains connaissent parce qu'il est aussi leur podologue ou pédicure, et donc toute la famille se porte bien. Nathaël, c'est la contraction de Nathanaël, Dieu donne. Dans notre agenda, il y a chaque jour cette pause spirituelle qui vous est offerte par les pasteurs Ephata. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, à la sortie du temple, indiquez-le-moi et je vous donnerai le moyen de pouvoir en bénéficier chaque matin. Dimanche prochain, c'est le professeur Christophe Singer qui présidera notre culte. Il est professeur de théologie pratique à la faculté de théologie protestante de Montpellier. J'en profite d'ailleurs pour me tourner vers Elian pour savoir s'il y a des informations relatives à la faculté qu'il faudrait partager. D'accord. Donc les cours ont repris en présentiel. La bibliothèque est également ouverte à des horaires aménagés, mais vous pouvez tout à fait y aller pour consulter les livres qui vous sont utiles. C'est maintenant le moment de l'offrande. Eh bien, que ce soit un moment pour exprimer notre reconnaissance en toute liberté. Nous nous unissons dans la prière. Éternel notre Dieu, c'est ta présence que nous espérons. Non seulement pour cet instant de prière, mais pour toute notre vie. Nous avons besoin de ressentir ta présence et d'être convaincus de ton amour pour nous, d'être convaincus que nous ne sommes pas seuls, abandonnés à nous-mêmes, que tu nous accompagnes à la manière de Jacob. Il y a certainement quelque chose d'un peu maladif dans ce besoin de vouloir être convaincu, car nous n'en avons jamais assez de ces signes qui nous disent la grâce universelle. Alors peut-être que cet instant de prière, nous pourrions en faire un temps pour accueillir véritablement cette grâce. Non pas simplement accueillir l'idée que nous nous en faisons, mais accueillir ta grâce. Éprouver ta lumière, ta chaleur. Ressentir ta puissance, celle qui nous permet d'accomplir notre tâche quotidienne. Ressentir ton réconfort, en particulier lorsqu'il y a quelques difficultés et des épreuves dans notre vie. Et pour éprouver tout cela, commençons par faire silence en nous-mêmes. Éternel, notre Dieu, il y a bien des choses que nous voudrions te demander. Parce que nous voyons beaucoup d'injustices autour de nous, beaucoup de malheurs. Et nous-mêmes, nous ne nous sentons pas toujours très très bien. Mais au fond, si nous te demandions que tout cela s'arrange, ne serait-ce pas une manière de dire que si ça ne va pas, c'est parce que c'est toi qui fais obstacle. Alors nous préférons nous mettre à ton écoute. Entendre ton espérance et essayer de la faire nôtre. Afin que ton évangile rayonne sur cette terre. Et que partout ton esprit suscite des ouvriers pour ton royaume, parce que nous ne ferons plus obstacle à ta volonté. Alors nous reprenons les mots que Jésus a enseignés à ses disciples, comme la prière que tu nous adresses et à laquelle nous voulons nous ouvrir, cette prière à laquelle nous voulons adhérer de tout notre être. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, levons-nous pour recevoir la bénédiction au nom même de Dieu. Une bénédiction, c'est peut-être ces paroles qui circoncisent un peu plus notre cœur chaque fois que nous les entendons. Car ce n'est pas le formalisme de la circoncision ou du baptême qui compte, mais cette circoncision intérieure dont ont parlé les prophètes. Alors, frères et sœurs, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Voici, l'Éternel est avec nous tous. Amen. Et bénissons Dieu par le chant du psaume 67. Le psaume 67, nous chantons les strophes 1 et 2 de ce psaume 67. Thank you.